Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
La crise des gilets jaunes, une fracture politique et sociale de plus en plus béante, un conflit sur les retraites qui n'en finit pas. Et cette question ressurgit encore ces derniers jours. La France vit-elle en démocratie?
C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale.
En tout cas, on est dans un régime autoritaire. Qu'est-ce que c'est un régime autoritaire? C'est un régime qui est un pouvoir qui n'écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir.
Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre.
Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal et la réponse d'Emmanuel Macron au micro de Radio J dans l'avion qui le ramenait de Jérusalem. Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Président du Collège de philosophie, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, auteur l'an dernier chez Odile Jacob d'un livre toujours d'actualité, « Comment gouverner un peuple roi ?» La France, une démocratie, question légitime ou pas ?
La France est une démocratie. Ce qui caractérise la démocratie, c'est au moins quatre éléments. Il faut des élections, de la délibération, des décisions et la reddition de comptes. Voilà, ce sont les quatre éléments qui définissent la démocratie. De ce point de vue-là, la France est une démocratie.
Y compris pour la délibération
Y compris pour la délibération. La délibération, ce n'est pas le fait simplement de bavarder, de discuter, ça, c'est un signe de la délibération, mais c'est aussi le fait de discuter ensemble en vue de la décision, avant et en vue de la décision. Oui. Donc la délibération existe au Parlement, elle existe dans l'espace public. Alors simplement, il ne faut pas considérer qu'on ne délibère pas parce que les décisions sont en désaccord avec ce qu'on pense personnellement. Parce que oui. Ça, voilà, il faut accepter effectivement l'altérité.
Oui, mais les opposants à la réforme des retraites disent justement, on a peu débattu de la réforme des retraites avant qu'elle soit présentée et le Parlement va en débattre seulement maintenant avec des inconnus, le texte à trous dénoncé par Jean-Luc Mélenchon.
La délibération, disons que les données sur la réforme des retraites étaient largement sur la table depuis longtemps. Les solutions esquissées étaient proposées. Il y avait l'augmentation des cotisations, il y avait le système à points, il y avait l'augmentation de l'âge pivot. Enfin, il y avait toute une série d'éléments. Je pense que ce sujet est bien débattu depuis longtemps. Enfin, c'est pas une nouveauté. Après, les choix politiques, les arbitrages politiques, on peut les contester, on peut les dénoncer, mais la délibération a eu lieu.
Bon, alors en tout cas, donc les quatre critères pour la démocratie sont remplies, selon vous. Régime autoritaire, dit Ségolène Royal.
Non, mais je pense que voilà, il faut quand même admettre que la démocratie est structurellement en crise. Je veux dire, quand on parle de crise de la démocratie, c'est presque un pléonasme. Pourquoi ? Parce que la démocratie nous promet des choses absolument extraordinaires. Elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, parfois la prospérité, voire le bonheur. Il faut être clair, on ne sera jamais tout ça. On peut y accéder à l'horizon, mais on ne sera. Donc il y a un élément. En effet, structurellement, la démocratie est en crise. Si on veut des régimes qui ne soient pas en crise, le régime dictatorial est tout indiqué. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Je pense que l'argument de Macron, personnellement, je le trouve effectivement juste. Allons voir ailleurs. Le point qui importe ici, c'est effectivement le diagnostic qui consisterait à dire « nous ne vivons pas actuellement en démocratie ». C'est un vieux débat de philosophie politique. Je fais un tout petit peu point de philo. C'est intéressant parce que, vous voyez, il y a un grand argument de celui qui est peut-être un des premiers démocrates modernes, même s'il n'apparaît pas comme ça, c'est Hobbes qui dit « Attention, il y a pire qu'un ordre injuste, c'est l'absence d'ordre. » Voilà. Et donc l'idée qu'on doit considérer que si on n'est pas dans une logique juridique, on risque effectivement de retomber dans l'état de nature. Et l'état de nature, c'est la violence de tous contre tous. À ça s'opposent des arguments comme Locke qui disent « Attention, il arrive que le pouvoir soit tellement violent à l'égard des citoyens qu'en fait nous sommes dans l'état de nature. Nous sommes dans l'état de nature parce que cette violence implique des réactions. » Et aujourd'hui, c'est ce deuxième scénario qui est en train d'apparaître, c'est de dire que ce pouvoir, un, n'est pas légitime, deux, il prend des décisions totalement arbitraires et donc que nous sommes en mesure de résister, y compris de résister violemment. Mmh. Voilà la structuration du débat.
Et la justification, elle se fait souvent de la même façon. Comme au moment des Gilets jaunes, on retrouve dans les discours politiques l'invocation du peuple. Le peuple souffre, le peuple est méprisé, le peuple refuse cette réforme. C'est un abus de langage, Pierre-Henri Tailloyau.
Le peuple est un concept extrêmement difficile. C'est-à-dire, le peuple, on croit toujours que c'est en fait nous, fondamentalement. Enfin, la petite chanson à chaque fois sur le peuple, c'est « le peuple, c'est moi, le peuple, je le connais, le peuple, c'est les opprimés, le peuple, c'est... Voilà. » On n'y arrive pas, on ne trouve jamais le peuple. Donc, en général, on va identifier les ennemis du peuple. C'est beaucoup plus facile. Donc, on va dire, on ne sait pas qui est le peuple, mais on sait qui sont les ennemis. Mais il y a tellement d'ennemis du peuple qu'à la fin, de nouveau, on se retrouve tout seul. Et puis, troisième étape de la petite ritournelle, arrive quelqu'un qui dit la main sur le cœur, le peuple c'est moi, suivez-moi. Et en fait c'est ça la grande difficulté de la démocratie, c'est qu'on pense toujours que le pouvoir incarne une pensée qui est différente de ce que je pense moi, et donc que de ce point de vue-là, il est une trahison du peuple. Mais comme on a le sentiment tous d'être le peuple, effectivement ça crée une difficulté, simplement ce qu'on appelle le vivre en commun ou le vivre ensemble.
Le peuple détenteur de la souveraineté, c'est dans la Constitution, mais l'article 3 de la Constitution dit aussi qu'aucune section du peuple ne peut s'approprier cette souveraineté, enfin je cite de mémoire.
Oui, un élément de la crise de la démocratie, c'est aussi à la fois que la majorité peut être silencieuse, mais que des minorités peuvent usurper le nom du peuple. C'est aussi ça le danger. Le mérite de nos institutions, c'est de tenter, tant bien que mal, d'éviter ces deux dérives. De donner à la majorité, par le biais des élections, tous les 5 ans, on peut considérer que c'est court, que c'est long, mais je pense plutôt que c'est court, la possibilité de s'exprimer, et d'éviter effectivement entre ces 5 ans, qu'une minorité tente d'usurper le nom du peuple.
Bon, mais vous pensez que la volonté populaire, elle peut, elle doit s'exprimer autrement que dans des rendez-vous électoraux, dont on voit qu'ils ne suffisent pas et qu'ils s'émoussent très vite une fois que les élus ont été désignés.
C'est le problème majeur, pour le coup, alors, des démocraties représentatives, c'est que l'élection n'autorise plus, ne donne plus suffisamment d'autorité ou ne donne plus suffisamment de légitimité. C'est aussi le fait des déstabilisations des réseaux sociaux, c'est-à-dire que la révolution numérique de notre espace public a créé une sorte de suspicion. Hein, ce que disait Alex Stamos, qui était responsable de la sécurité de Facebook au moment des élections américaines, il a démissionné de ce poste. Il a dit le vrai problème de ceux qui veulent déstabiliser nos élections, ce n'est pas de faire gagner tel ou tel candidat, ça on ne sait pas faire. La vraie stratégie, c'est de faire en sorte que les citoyens des démocraties perdent confiance dans leur système électoral. Voilà le vrai objectif. Et ça, on peut le faire très facilement. Faire en sorte que ceux qui ont gagné ne sont pas sûrs d'avoir gagné, ceux qui ont perdu ne sont pas sûrs d'avoir perdu. Et ça, ça crée effectivement un sentiment de crise parce qu'on estime que c'est pas juste, que la situation n'est pas juste. Donc, un sentiment d'éloignement et de perte de légitimité des élus.
Pierre-Henri Tailloyau, philosophe, on marque une pause avant de revenir sur le mouvement de la réforme des retraites qui dégénère parfois.
Europe 1. De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Avec le philosophe Pierre-Henri Tailloyau et dans le pays, un niveau de conflictualité, d'affrontement rarement atteint, violence symbolique ou violence tout court, insultes et menaces contre le chef de l'État ou contre la CFDT. On a l'impression, Pierre-Henri Tailloyau, d'une société qui se défait, qui rompt avec certaines règles et usages démocratiques. Il y a des lignes qui ont sauté, à votre avis, où on trouve dans notre histoire récente des précédents de ce genre ?
Je pense qu'il y a deux points d'analyse qu'on peut faire, qui sont un tout petit peu contradictoires d'ailleurs. On peut d'abord considérer qu'un régime comme le nôtre, qui a résisté à plus de 50 semaines de crise de gilets jaunes, puis une séquence effectivement de contestation pour les retraites et qui tient toujours, est un régime remarquablement résilient. Ça peut être, avec un peu de recul, si on se place dans 10 ans, on regardera cette séquence comme disant, ouais, les institutions, chapeau, ça tient.
On dit toujours ça, c'est les institutions de la 5e République.
Qui sont relativement souples, etc. Mais c'est un élément qu'il ne faut pas totalement négliger. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de très profond dans la séquence qu'on vient d'avoir, c'est le fait que, c'est toujours le problème des démocraties, c'est comment on intègre ceux qui ne sont pas contents et ceux qui ne sont pas dans le système démocratique. Il y a eu toute une série de techniques dans l'histoire. La première technique, c'est le clientélisme, c'est-à-dire qu'on paye les votes. Voilà, c'est une manière d'attirer ceux qui ne sont pas dans la démocratie. Ensuite, ça citait le système des partis. Le système des partis, c'est-à-dire de recréer des sociétés bis où on fait tout ensemble, on se marie, on se forme et ça crée effectivement un moment qui a permis en France, au mouvement ouvrier, de s'incorporer en quelque sorte à la démocratie. Alors, le clientélisme, on déteste ça aujourd'hui à juste titre. Le parti est explosé, n'existe plus et il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. et qui peut être vu de manière positive, c'est-à-dire le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement Gilets jaunes ou les protestations Podemos en Espagne et tous ces mouvements spontanés sont peut-être des moyens par lesquels des personnes qui s'estiment non représentées progressivement et pas à pas se rapprochent des institutions en les contestant. Ce n'est pas une hypothèse à négliger parce que ces mouvements, c'est aussi, on le voit pour les Gilets jaunes, c'est de dire le mouvement des Gilets jaunes, c'était un certain nombre de personnes qui étaient ni riches ni pauvres, qui s'estimaient oubliées du débat social, se sont dit écoutez-nous, entendez-nous. Et c'était peut-être le seul message des Gilets jaunes. Or, ça a marché. Désormais, les autorités sont attentives à la France périphérique, attentives au territoire, comme on disait, et attentives au destin de ces personnes. Donc, d'une certaine façon, la seule revendication des Gilets jaunes, c'était de dire « on existe ». Donc, peut-être interprété, à contrario du nez collé sur l'actualité, ce mouvement et cette violence comme étant en fait un mouvement d'intégration. Cela dit, évidemment à l'inverse, il y a aussi un certain nombre de lignes qui sont franchies, de lignes qui consistent à faire que, effectivement, y compris les syndicats, c'est-à-dire des corps intermédiaires qui essayent de canaliser ces mouvements, n'y parviennent plus totalement et sont poussés dans une logique de radicalisation et de violence tout à fait intense. Et donc, la question qui se pose, et je suis évidemment incapable de trancher, c'est de savoir, entre ce mouvement d'intégration et ce mouvement de désintégration, qui va gagner ? Voilà. Et là, je suis désolé, mais je n'ai pas de boule de cristal.
Mais désintégration, vous en convenez, pour ce qui est des actes illégitimes ou illégaux qui ont pu être commis dernières semaines ?
Oui, il y a une dimension de désintégration. Il faut voir si elle sera durable et si elle est ample. Il est incontestable qu'elle s'est organisée, c'est-à-dire aussi bien au niveau de ce qu'on appelle les black blocs qui systématiquement désormais interviennent dans les manifestations. Donc il y a un petit bloc. Incontestablement au niveau de les versions les plus radicales des syndicats qui entendent effectivement, parce qu'on leur a dit que de toute façon c'était le retrait des retraites, de la réforme des retraites ou rien, il y a une organisation de ces mouvements de désintégration et il faut voir si ces mouvements ont perduré ou pas. Voilà la dimension de vigilance qu'il faut avoir désormais à cet égard et on le saura dans les semaines qui viennent.
Alors on parlait tout à l'heure des alternatives aux habituels rendez-vous électoraux. Est-ce que ça peut passer, on revient au débat qu'on a eu sur les Gilets jaunes, par des expériences de démocratie directe, Pierre-Henri Tavoyot, je ne vous sens pas très emballé par la Convention citoyenne sur le climat avec ses Français tirés au sort chargés de proposer des solutions pour le réchauffement climatique.
Cette convention, il faut être très pragmatique, c'est-à-dire qu'il faudra la juger au résultat. Moi, j'ai quelques réserves a priori, mais je ne voudrais pas que ces réserves a priori m'empêchent de voir, éventuellement, j'espère avoir tort. Non, ce qui me gêne sur cette dimension, d'abord, c'est que la médiatisation de cette convention n'est pas énorme, c'est-à-dire que la plupart de nos concitoyens ne savent pas ce que font ces gens, je doute que leur décision sera porteuse d'une quelconque légitimité. Or, le problème aujourd'hui, parce que simplement, on dira, mais qui c'est ces gens qui ont discuté, ils sont comme nous, certes, mais le problème est tellement gigantesque, et ce problème tellement gigantesque de l'environnement est à côté d'autres problèmes qui sont énormément colossaux, le problème des retraites, le problème de l'endettement, le problème de la prospérité, enfin, et que, évidemment, la fonction du politique, c'est de faire des arbitrages. Donc, s'il y a des gens qui travaillent sur un sujet, mais en oubliant les autres, on va se retrouver dans une situation aussi complexe qu'avant. Et voilà, donc je suis un peu sceptique sur le type de solution qui va émerger de cette initiative populaire. Mais encore une fois, c'est à l'avantage d'être une expérimentation et on verra encore une fois au résultat si ça fonctionne ou pas.
Mais la question clé, c'est celle de la légitimité. On voit à quel point les politiques, les corps intermédiaires ont perdu de leur légitimité. Les experts qui sont censés nous éclairer pour trouver des solutions à la crise climatique ont perdu aussi de la légitimité, la science en général. Si les citoyens tirés au sort n'en ont pas plus, ça devient compliqué à résoudre tout ça.
Oui, parce que je pense que le point essentiel est la véritable crise de la démocratie ne se situe pas du côté du démos, comme on disait, c'est-à-dire du peuple, mais plutôt du côté du kratos. C'est-à-dire que la légitimité se retrouve dans l'action aujourd'hui, et pas tellement dans d'où on vient, d'où on parle, qui on est, mais savoir si on est efficace et si on est capable de remplir cette promesse démocratique, et la seule, est-ce que le peuple peut être maître de son destin ? Est-ce que nous pouvons renouer avec la maîtrise démocratique et lutter contre la dépossession démocratique ? Donc aujourd'hui, la reconquête de la légitimité pour un élu, c'est de dire aux gens, voilà, nous pouvons décider, nous pouvons agir, je peux agir sur des questions qui vous intéressent, par exemple, effectivement, l'environnement, de façon intelligente et pas absurde, sur des questions comme les flux migratoires, qui est vraiment l'emblème par excellence du sentiment de dépossession. C'est-à-dire l'idée qu'on est envahi, peut-être idée fantasmée, mais idée sur laquelle il faut faire effectivement des choses. Donc c'est sur ce plan-là, et sur ce plan seulement, que la conquête... reconquête de la légitimité démocratique pourra se faire.
Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle votre livre paru l'an dernier chez Odile Jacob, Comment gouverner un peuple roi, avec un sous-titre qui était Manuel...
Traité nouveau d'art politique.
Traité nouveau d'art politique.
Rien que ça.
Rien que ça, comme vous dites. Merci à vous.